les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Victor Hugo répondant à Rochefort à propos du rouge et le noir. Chaque fois que je tente de déchiffrer une phrase de votre ouvrage de prédilection, c'est comme si on m'arrachait une dent. Stendhal ne s'est jamais douté un seul instant de ce que c'était que d'écrire. Mérimée, lettre à Stendhal. Un de vos crimes, c'est d'avoir exposé à nu et au grand jour certaines plaies du cœur humain, trop salopes pour être vues. Il y a dans le caractère de Julien des traits atroces dont tout le monde sent la vérité, mais qui font horreur. Le but de l'art n'est pas de montrer ce côté de la nature humaine. Paul Léoto. Pas une ligne pour le joli, pour le pittoresque, pour l'amusement. Toujours quelque chose, toujours de l'intérêt. Julien Green. Cet homme que j'aime si peu et dont je ne puis ouvrir un livre que je n'en dévore aussitôt quelques pages, comme il me déplaît et comme je l'admire. André Gide. Le grand secret de Stendhal, sa grande malice, c'est d'écrire tout de suite. De là, ce quelque chose d'alerte et de prime sautier, de disconvenu, de subi et de nu, qui nous ravit toujours à neuf dans son style. On dirait que sa pensée ne prend pas la peine de se chausser pour courir. Quant à René Clair, académicien réalisateur, Le rouge et le noir était de ses livres de chevet. En 1967, au micro de Jean-Vincent Bréchignac, il en lisait quelques pages sur France Culture.
Le livre de chevet de René Clair de l'Académie française.
Je vois en bonne place parmi vos livres de chevet, René Clair, Henri Bell dit Stendhal.
Oui, Stendhal. Et voici l'un des grands moments du rouge et le noir. Une soirée avec Madame de Rênal. Les grandes chaleurs arrivèrent. On prit l'habitude de passer les soirées sous un immense tilleul à quelques pas de la maison. L'obscurité y était profonde. Un soir, Julien parlait avec action. Il jouissait avec délices du plaisir de bien parler et à des femmes jeunes. En gesticulant, il toucha la main de Madame de Rênal qui était appuyée sur le dos d'une de ses chaises de bois peint que l'on place dans les jardins. Cette main se retira bien vite. Mais Julien pensa qu'il était de son devoir d'obtenir que l'on ne retira pas cette main quand il la touchait. L'idée d'un devoir à accomplir et d'un ridicule, ou plutôt d'un sentiment d'infériorité à encourir si l'on n'y parvenait pas, éloigna sur le champ tout plaisir de son cœur. Ses regards, le lendemain, quand il revit Madame de Rênal, étaient singuliers. Il l'observait comme un ennemi avec lequel il va falloir se battre. Ses regards, si différents de ceux de la veille, firent perdre la tête à Madame de Rênal. Elle avait été bonne pour lui et il paraissait fâché. Elle ne pouvait détacher ses regards des siens. La présence de son amie Madame Derville permettait à Julien de moins parler et de ne s'occuper davantage de ce qu'il avait dans la tête. Son unique affaire, toute cette journée, fut de se fortifier par la lecture du livre inspiré qui retrempait son âme. Il abrégea beaucoup les leçons des enfants, et ensuite, quand la présence de Madame de Rênal vint le rappeler tout à fait aux soins de sa gloire, il décida qu'il fallait absolument qu'elle permît ce soir-là que sa main restât dans la sienne. Le soleil, en baissant et rapprochant le moment décisif, fit battre le cœur de Julien d'une façon singulière. La nuit vint. Il observa avec une joie qui lui ôta un poids immense de dessus la poitrine qu'elle serait fort obscure. Le ciel, chargé de gros nuages promenés par un vent très chaud, semblait annoncer une tempête. Les deux amis se promenèrent fort tard. Tout ce qu'elle faisait ce soir-là semblait singulier à Julien. Elle jouissait de ce temps qui, pour certaines âmes délicates, semble augmenter le plaisir d'aimer. On s'assit enfin. Madame de Rênal à côté de Julien et Madame Derville près de son amie. Préoccupé de ce qu'il allait tenter, Julien ne trouvait rien à dire. La conversation languissait. « Serais-je aussi tremblant et malheureux au premier duel qui me viendra ?» se dit Julien, car il avait trop de méfiance, et de lui et des autres, pour ne pas voir l'état de son âme. Dans sa mortelle angoisse, tous les dangers lui semblaient préférables. Que de fois ne désira-t-il pas voir survenir à Madame de Rênal quelque affaire qui l'obligea de rentrer à la maison et de quitter le jardin ? La violence que Julien était obligé de se faire était trop forte pour que sa voix ne fût pas profondément altérée. Bientôt, la voix de Madame de Rênal devint tremblante aussi, mais Julien ne s'en aperçut point. L'affreux combat que le devoir livrait à la timidité était trop pénible pour qu'il fût en état de rien observer hors de lui-même. 9h15 venait de sonner à l'horloge du château, sans qu'il eût encore rien osé. Julien, indigné de sa lâcheté, se dit « Au moment précis, où 10h sonneront, j'exécuterai ce que pendant toute la journée je me suis promis de faire ce soir, où je monterai chez moi me brûler la cervelle. » Après un dernier moment d'attente et d'anxiété, pendant lequel l'excès de l'émotion mettait Julien comme hors de lui, 10 heures sonnèrent à l'horloge qui était au-dessus de sa tête. Chaque coup de cloche fatale retentissait dans sa poitrine et y causait comme un mouvement physique. Enfin, comme le dernier coup de 10 heures retentissait encore, il étendit la main et prit celle de Madame de Rênal, qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. Quoique bien ému lui-même, il fut frappé de la froideur glaciale de la main qu'il prenait. Il la serrait avec une force convulsive. On fit un dernier effort pour la lui ôter, mais enfin, cette main lui resta. Son âme fut inondée de bonheur. Non qu'il aimât Madame de Rênal, mais un affreux supplice venait de cesser. Pour que Madame Derville ne s'aperçût de rien, il se crut obligé de parler. Sa voix, alors, était éclatante et forte. Celle de Madame de Rênal, au contraire, trahissait tant d'émotion que son amie la crut malade et lui proposa de rentrer. Julien sentit le danger. « Si Madame de Rênal rentre au salon, je vais retomber dans la position affreuse où j'ai passé la journée. J'ai tenu cette main trop peu de temps pour que cela compte comme un avantage qui m'est acquis. » Au moment où Madame Derville renouvelait la proposition de rentrer au salon, Julien serra fortement la main qu'on lui abandonnait. Madame de Rênal, qui se levait déjà, se rassit en disant d'une voix mourante « Je me sens la vérité un peu malade, mais le grand air me fait du bien. » Ces mots confirmèrent le bonheur de Julien, qui dans ce moment était extrême. Il parla, il oublia de feindre. Il parut l'homme le plus aimable aux deux amis qui l'écoutaient. Cependant, il y avait encore un peu de manque de courage dans cette éloquence qui lui arrivait tout à coup. Il craignait mortellement que Madame Derville, fatiguée du vent qui commençait à s'élever et qui précédait la tempête, ne voulût rentrer seule au salon. Alors il serait resté en tête à tête avec Madame de Rênal. Il avait eu presque par hasard le courage aveugle qui suffit pour agir, mais il sentait qu'il était hors de sa puissance de dire le mot le plus simple à Madame de Rênal. Quelque léger que fussent ses reproches, il allait être battu et l'avantage qu'il venait d'obtenir anéanti. Heureusement pour lui, ce soir-là, ses discours touchants et emphatiques trouvèrent grâce devant Madame Derville, qui très souvent le trouvait gauche comme un enfant et peu amusant. Pour Madame de Rênal, la main dans celle de Julien, elle ne pensait à rien. Elle se laissait vivre. Les heures qu'on passa sous ce grand tilleul que la tradition du pays dit planté par Charles le Téméraire furent pour elle une époque de bonheur. Elle écoutait avec délices les gémissements du vent dans l'épais feuillage du tilleul et le bruit de quelques gouttes rares qui commençaient à tomber sur ses feuilles les plus basses. Julien ne remarqua pas une circonstance qui l'eût bien rassuré. Madame de Rênal, qui avait été obligée de lui ôter sa main parce qu'elle se leva pour aider sa cousine à relever un vase de fleurs que le vent venait de renverser à leurs pieds, fut à peine assise de nouveau qu'elle lui rendit sa main presque sans difficulté et comme si c'eût été entre eux déjà une chose convenue. Minuit était sonné depuis longtemps. Il fallut enfin quitter le jardin. On se sépara. Madame de Rênal, transportée du bonheur d'aimer, était tellement ignorante qu'elle ne se faisait presque aucun reproche. Le bonheur lui ôtait le sommeil. Un sommeil de plomb s'empara de Julien mortellement fatigués des combats, que toute la journée, la timidité et l'orgueil s'étaient livrés dans son cœur. Et voici maintenant, toujours dans le rouge et le noir, Julien Sorel sous la fenêtre de la fille du marquis de la Mole. La nuit était sombre. Il put se livrer à tout son malheur sans craindre d'être vu. Il était évident pour lui que mademoiselle de la Mole aimait un de ces jeunes officiers avec qui elle venait de parler si gaiement. Elle l'avait aimé, lui, mais elle avait connu son peu de mérite. Et en effet, j'en ai bien peu, se disait Julien avec pleine conviction. Je suis au total un être bien plat, bien vulgaire, bien ennuyeux pour les autres, bien insupportable à moi-même. Il était mortellement dégoûté de toutes ses bonnes qualités, de toutes les choses qu'il avait aimées avec enthousiasme. Et dans cet état d'imagination renversée, il entreprenait de juger la vie avec son imagination. Cette erreur est d'un homme supérieur. Plusieurs fois, l'idée du suicide s'offrit à lui. Cette image était pleine de charme, c'était comme un repos délicieux, c'était le verre d'eau glacée offerte aux misérables qui, dans le désert, meurt de soif et de chaleur. La mort augmentera le mépris qu'elle a pour moi, s'écriait-il, quel souvenir je laisserai. Tombé dans le dernier abîme du malheur, un être humain n'a de ressources que le courage. Julien n'eut pas assez de génie pour se dire « il faut oser ». Mais, comme il regardait la fenêtre de la chambre de Mathilde, il vit à travers les persiennes qu'elle éteignait sa lumière. Il se figurait cette chambre charmante qu'il avait vue, hélas, une fois en sa vie. Son imagination n'allait pas plus loin. Une heure sonna. Entendre le son de la cloche et se dire « je vais monter avec l'échelle », ce ne fut qu'un instant. Ce fut l'éclair du génie. Les bonnes raisons arrivèrent en foule. « Puis-je être plus malheureuse ? » disait-il. Il courut à l'échelle. Le jardinier l'avait enchaîné. À l'aide du chien d'un de ses petits pistolets qu'il brisa, Julien, animé dans ce moment d'une force surhumaine, tordit un des chaînons de la chaîne qui retenait l'échelle. Il en fut maître en peu de minutes et la plaça contre la fenêtre de Mathilde. Elle va se fâcher, m'accabler de mépris, qu'importe. Je lui donne un baiser, un dernier baiser. Je monte chez moi et je me tue. Mes lèvres touchant sa joue avant que de mourir. Il volait en montant l'échelle. Il frappe à la persienne. Après quelques instants, Mathilde l'entend. Elle veut ouvrir la persienne, l'échelle s'y oppose. Julien se cramponne au crochet de fer, destiné à tenir la persienne ouverte, et au risque de se précipiter mille fois, donne une violente secousse à l'échelle et la déplace un peu. Mathilde peut ouvrir la persienne. Il se jette dans la chambre, plus mort que vif. « C'est donc toi, » dit-elle, en se précipitant dans ses bras. Qui pourra décrire l'excès du bonheur de Julien ? Celui de Mathilde fut presque égal. Elle lui parlait contre elle-même. Elle se dénonçait à lui. « Punis-moi de mon orgueil atroce, » lui disait-elle, en le serrant dans ses bras de façon à l'étouffer. « Tu es mon maître, je suis ton esclave. Il faut que je te demande pardon à genoux d'avoir voulu me révolter. » Elle quittait ses bras pour tomber à ses pieds. « Oui, tu es mon maître, » lui disait-elle encore, ivre de bonheur et d'amour. « Règne à jamais sur moi. Punis sévèrement ton esclave quand elle voudra se révolter. » Dans un autre moment, elle s'arrache de ses bras, allume la bougie, et Julien a toutes les peines du monde à l'empêcher de se couper tout à côté de ses cheveux. « Je veux me rappeler, lui dit-elle, que je suis ta servante. Si jamais un exécrable orgueil vient m'égarer, montre-moi ses cheveux et dis, il n'est plus question d'amour, il ne s'agit pas de l'émotion que votre âme peut éprouver en ce moment. Vous avez juré d'obéir, obéissez, sur l'honneur. » Mais il est plus sage de supprimer la description d'un tel degré d'égarement et de félicité.
René Clair de l'Académie française a lu ce soir un extrait de l'œuvre de Stendhal, Le rouge et le noir. Le livre de chevet. C'était une émission de Jean-Vincent Bréchignac, assistante de production, Janine Antoine.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 17 mars 1967. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Let your left turn on misery. Your right hand kill my pain. When she left, she took the sunshine, left me standing here in the rain. Where's the piano man? Play me some down home blues. Let me sit here and groan. Just in the mood for that blues. Piano man, now you know how it feels. Mr. Piano man, you know, her love is real.